Le grand témoin.
C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission le professeur Mugaruka Bin Mubibi Gaspard. Il est ambassadeur de la RDC en République centrafricaine. Monsieur l'ambassadeur, bonjour.
Bonjour madame.
Et bon dimanche.
Merci.
Meilleurs vœux pour l'année 2014.
À vous autant, madame.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne, de votre parcours professionnel, de vos débuts dans la diplomatie, de vos débuts dans la politique, du poste que vous occupez actuellement en Centrafrique, ambassadeur de la RDC en Centrafrique. Vous allez nous dire comment ça se passe avec les Congolais qui vivent dans ce pays-là. Vous êtes né un certain 31 mai 1953 à Bukavu.
Oui.
Et c'est à Bukavu, vous avez grandi, vous avez passé votre enfance.
Oui.
Dans quelles conditions?
Je suis né d'une famille modeste. Mon père enseignant de formation chez les missionnaires d'abord catholiques et puis à la création des écoles laïques en 1958. Mon père est obligé de servir l'État colonial dans une école officielle ouverte au Maniema et principalement dans le territoire de Lobutu. Donc nous quittons Bukavu et nous nous installons à Lobutu.
Lobutu, c'est dans la province du Maniema.
Dans la province du Maniema aujourd'hui. De Lobutu, mon père va ouvrir une école au Bondjélé et ensuite il ira ouvrir l'école officielle d'Obokoté.
Il ouvre une école, c'est-à-dire que c'était son école ou bien...
L'école de l'État, c'était le seul enseignant qu'il y avait dans le coin.
Si c'était le seul enseignant, c'est-à-dire qu'il était quand même privilégié?
Je ne sais pas, j'étais encore gosse, mais j'étais avec mon père et je vis comment il a commencé, disons, ce travail, avec beaucoup de passion.
Alors vous êtes marié, père de 6 enfants.
Oui.
Quel est le souvenir qui vous a marqué pendant votre jeunesse, monsieur l'ambassadeur?
Disons que c'est d'abord ma scolarité que j'ai commencé à Bukavu, où mon père enseignait, parce que en 1960, mon père, avec le mouvement des indépendances, mon père est obligé de quitter le Maniema et de rentrer à Bukavu. Il reprend sa carrière d'enseignant, et c'est comme ça que je vais commencer mon école primaire, là où enseignait mon père, à l'école primaire officielle.
À l'Athénée de Baguira.
De Baguira, oui. Je termine mon école primaire. Et je suis inscrit au Collège Saint-Paul de Bukavu, où je vais rester pendant 4 ans avant de m'envoler pour le Kasaï Oriental, où était mariée ma grande sœur, ma sœur aînée, et où je vais faire le reste, disons, de mes humanités.
Vous êtes allé au Kasaï Occidental pour vivre avec votre sœur.
C'est là où j'ai eu mon diplôme d'État.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Bukavu pour aller au Kasaï Occidental pour vivre chez votre sœur?
Mes parents.
Il y avait une raison particulière.
Mais mon père, qui vieillissait déjà, avait voulu que je puisse aller chez ma sœur parce que ma sœur me réclamait. J'étais pratiquement un enfant choyé de ma sœur.
Vous êtes cadet?
Non, je ne suis pas cadet, heureusement. Mais ma sœur, c'était l'aînée d'abord de la famille et ma sœur a voulu que je sois avec elle, qu'elle supporte mes études parce que mon père se faisait vieux et se préparait déjà à la retraite.
Et vous avez fait des humanités pédagogiques?
Je fais 2 ans d'humanités pédagogiques, oui.
Ah, vous avez commencé d'abord par les humanités littéraires.
Oui.
Mais pourquoi vous avez changé de section?
Parce que quand je suis arrivé à Kananga, je n'ai pas pu obtenir une inscription en section littéraire. La seule possibilité qui me restait, c'était une inscription que je venais d'obtenir à l'école normale de Kananga.
Après avoir obtenu votre diplôme d'État en pédagogie, vous poursuivez l'université en lettres à l'université du Zaïre, campus de Lubumbashi.
Oui.
Donc du Kasaï Occidental, vous êtes
allé
à Lubumbashi
où j'ai commencé mes études universitaires à la faculté des lettres. Et en 1977, j'ai eu ma licence en histoire et mon diplôme d'agrégé en enseignement. J'étais retenu assistant à la faculté, mais la jeunesse aidant, je ne comprenais absolument rien de ce que je devais faire comme assistant à l'université. Je suis rentré à Bukavu parce que ma mère était malade. Et arrivé à Bukavu, j'ai commencé à travailler. C'est comme ça que j'ai donné cours à l'Institut Bwindi de Bukavu. d'abord. Et ensuite, ma sœur est arrivée une fois encore à Bukavu et m'a dit qu'il fallait que j'aille, comme je venais d'obtenir un poste d'assistant à l'ISP Kisangani. Je suis allé à Kisangani où j'ai commencé à travailler à l'université.
Comme assistant?
Non, j'ai donné cours pendant quelques mois au complexe scolaire de l'université de Kisangani. Et c'est après 6 mois au complexe que finalement j'ai été envoyé comme assistant à l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimayi.
Vous avez parcouru quand même plusieurs provinces, hein?
Oui. Je fais 2 ans à Mbujimayi comme assistant et comme je travaillais déjà sur ma thèse de doctorat, mon promoteur a tenu à ce que je puisse rentrer à Lubumbashi pour un encadrement solide. C'est comme ça que j'ai obtenu mon transfert à l'université de Lubumbashi où j'ai commencé comme chercheur au CERDAC, le centre d'études de recherche documentaire sur l'Afrique centrale. Et là, nous sommes en 81-82.
En 86, vous obtenez votre...
En 86, je soutiens ma thèse de doctorat.
Le doctorat en histoire.
Oui.
Il y a quelque chose qui vous a poussé à faire l'histoire?
J'aimais rester à côté des anciens quand tu racontais l'histoire de ma région. Et l'histoire était au fait une passion pour moi. Et avec mes résultats à l'examen de maturité à l'époque, j'ai été orienté vers la faculté des lettres et j'ai opté pour le département d'histoire.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, monsieur l'ambassadeur Mugaruka Bin Moubibi?
C'est que je n'aime pas.
Ouais.
Bon, je n'aime pas décevoir les gens. Je n'aime pas les gens qui trahissent les autres. Ça me fait mal.
Vous n'aimez pas décevoir les gens? Ça vous est jamais arrivé de décevoir quelqu'un?
C'est possible. C'est possible que je puisse avoir ri à décevoir de gens. Mais vraiment, je fais tout pour éviter cela.
Vous étiez quel genre d'enfant?
Pas trop gâté. J'étais un enfant qui était soumis à des travaux à la maison. Parce que d'abord, ma sœur s'est mariée quand j'avais 6 ans. Et mon frère aîné, bon, il était mon aîné de plus de 6 ans. Ça fait que ma mère ne pouvait compter que sur moi pour des petits travaux à la maison parce que ma petite sœur qui venait après moi était trop petite. Et donc, j'ai grandi dans le travail. Donc, je pilais de manioc pour ma mère. J'aidais ma mère à cultiver les champs. J'allais puiser de l'eau pour ma mère quand j'étais au village.
Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a poussé à fuir pour aller rejoindre votre grande sœur que vous soyez?
Non, je ne crois pas. Parce que même chez ma sœur, je faisais des petits travaux aussi.
Après votre doctorat en histoire, vous avez dit que vous avez continué comme chercheur au centre d'études de recherche documentaire sur l'Afrique centrale.
Bon, il faut dire que quand j'étais, invité de l'ISP à l'université, je commençais mon travail comme chercheur. Et une année après, c'est parce que c'est très important pour ma vie, je me suis présenté aux élections. Il y avait des élections syndicales. Et j'ai été élu syndicaliste. Et comme ne pouvait être président du syndicat de l'université qu'un membre du corps académique, donc je n'étais pas du corps académique, j'étais du corps scientifique, et il n'y avait pas un seul professeur qui avait postulé à ces postes. Et donc, je me retrouvais comme seul membre du corps scientifique dans le syndicat qui était élu. Et c'est comme ça qu'on va me désigner président
de la délégation syndicale de l'université.
Et à l'époque, comme président du syndicat, je siégeais au comité sectionnaire du IMPER. Et c'est comme ça que...
C'est par là que le goût de la politique vous a envahi.
Oui, avec toutes les formations que j'ai eu à suivre au niveau de l'INTESA à l'époque, et ma participation à des réunions importantes du conseil de l'université, tout cela a forgé ma personne et m'a poussé plus tard à embrasser la carrière politique.
Et là, c'est déjà vers 1992, puisqu'on vous retrouve comme directeur des cabinets du gouverneur
de la province du Katanga. Je soutenais ma thèse en 86. Je suis toujours président de la délégation syndicale de l'université. 89, il y a des élections générales et locales et je suis élu député du Katanga en 89. Donc je me retrouve à l'Assemblée provinciale avec quelques amis dont...
À cette époque-là, on vous appelait commissaire du peuple, je crois.
Non, au niveau provincial, on nous appelait membre de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée régionale.
Hein, ouais. Ouais.
Et c'est comme ça que je vais me retrouver avec quelques personnalités katangaises assez importantes, notamment le président Kyungu, le président de l'Assemblée provinciale aujourd'hui. Et à partir des années 90, on va d'abord, on sera connu avec, à cause des événements
de l'université de Lubumbashi. C'est-à-dire quoi, on sera connu?
J'étais président toujours de la délégation syndicale. Et comme président de la délégation syndicale, je eus à faire un rapport, à transmettre, disons, au conseil de l'université les desiderata du corps scientifique, du corps académique et scientifique, au conseil de l'université sur les événements qu'on venait de vivre à l'université. Et cela a suscité la convocation d'une réunion élargie du conseil de sécurité, du conseil régional de sécurité. Et au cours de cette réunion, on va décider de la création de la fameuse commission d'enquête. Et étaient visées certaines personnalités de l'Assemblée provinciale, dont bien sûr moi. Et on va nous mettre dans cette commission pour essayer de voir, peut-être c'était une façon de nous faire taire. Donc on fera partie de cette commission, la première commission qui a eu à enquêter sur les événements du massacre des étudiants à l'université.
Alors, je ne vous arrache pas la parole. Certaines personnes disent que ces événements n'ont pas existé ou les massacres n'ont pas existé. Vous qui étiez sur place, est-ce qu'il y a eu réellement massacre à l'université de Lubumbashi?
Il y a eu mort d'homme. Et donc, il y a eu massacre. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Et si aujourd'hui on parle de la mort d'Ilombé, le seul corps qu'on a trouvé, c'est parce que la commission d'enquête de l'Assemblée régionale a découvert ce corps-là. Et c'est grâce donc à notre commission que ce corps, la mort de cet étudiant, a été portée à la connaissance de la communauté internationale. Et donc, quand on s'est réunissait...
Mais les corps des autres étudiants tués n'ont jamais été découverts.
Il faut arriver à lire notre rapport sur ces événements. Je crois que le temps permettra aux uns et aux autres de faire la lumière sur ces événements. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de points d'ombre, beaucoup de points d'interrogation sur ce qui s'est passé cette nuit-là à l'université de Lubumbashi.
Vous avez été aussi directeur de cabinet du gouverneur de la province du Katanga.
Oui.
Il s'agit de quel gouverneur?
Le gouverneur Kyungu.
Kyungu Kumwanza. Oui. Vous étiez très proche.
Oui, disons pendant que on siégeait au niveau de la commission d'enquête, nous envoyait à monter un parti politique, la FENADEC, la Fédération nationale des démocrates chrétiens. Et ce parti que nous avions créé avec des amis au niveau de l'Assemblée provinciale a fédéré avec d'autres partis pour devenir ces grands partis que nous avons connus ici au pays, l'Union des fédéralistes et des républicains indépendants, l'UFERI.
L'UFERI.
Donc nous avons fédéré avec beaucoup de partis, dont le PRI de M. Gounzakar Dibond, pour créer l'UFERI.
Donc et vous êtes parmi...
Je suis parmi les fondateurs.
Les fondateurs de l'UFERI.
Oui. Et j'étais désigné secrétaire provincial de l'UFERI, parce que la base de l'UFERI, c'était le Katanga. Kyungu était président provincial et moi, j'étais secrétaire provincial.
Et vous êtes resté combien de temps dans l'UFERI?
Disons que déjà en 92, Kyungu est devenu gouverneur et le parti va demander à ce que je puisse l'aider dans sa tâche avec beaucoup d'amis qui sont dans la politique active aujourd'hui au niveau du pays. Je serai désigné directeur de cabinet. Je resterai à ce poste jusqu'en 97, à l'entrée de
l'AFDEL.
À l'entrée de l'AFDEL. J'étais le premier directeur de cabinet du gouverneur Kakoudji, qui était désigné par l'AFDEL. Et à l'entrée de l'AFDEL, il m'a été demandé de prester mes services auprès du gouverneur Kakoudji. Et après...
Une année, parce qu'en 1998, vous commencez...
Je suis resté avec le gouverneur Kakoudji pendant 3 mois. Et après, j'ai été désigné chef de département des études et planification au secrétariat général de l'AFDEL. Et c'est à partir de là que j'ai été envoyé dans la diplomatie, comme d'abord premier conseiller d'ambassade à Nairobi.
Alors, on va y revenir. On va revenir sur votre parcours ou vos débuts dans la diplomatie. Mais avant cela, dites-nous, monsieur l'ambassadeur, comment vous passez vos moments de détente?
Mes moments de détente?
Oui.
Je fais la lecture. J'aime la lecture. Mais aussi le sport. Je pratique le sport.
Quel sport vous faites?
Je joue au foot. Je fais la marche.
Jusqu'à aujourd'hui, vous jouez au foot?
Non, avec l'âge, avec l'âge, non, je marche.
Vous
je
faites
fais
la marche.
Un peu de gymnastique aussi.
Même quand vous êtes à Bangui dimanche.
Le dimanche, je suis tous les jours, tout le matin, je suis au stade à partir de 6h jusqu'à 6h30. Je suis au stade. Je fais quelques tours. Quelques exercices, je rentre à la maison avant d'aller au bureau.
Alors donc la marche, la lecture,
oui.
C'est comme ça que vous essayez de passer votre temps.
On passe le temps.
Vous arrivez aussi d'écouter de la musique?
De temps en temps, oui, à la maison.
Quel genre de musique vous écoutez?
La musique congolaise, d'accord. Essentiellement.
La rumba?
La rumba, j'adore la rumba. Oui, la musique européenne.
La rumba congolaise, vous dansez aussi?
Quand l'occasion se présente, oui. De fait.
Ben, dimanche à la maison aussi, vous
pouvez. De fait, en famille, vous savez, bon, notre fonction nous oblige souvent à organiser des réceptions. Et de temps en temps, on essaie un peu quelques pas de disque. De danse.
Ancien succès ou vous vous retrouvez dans
les anciens, les anciens succès.
Franco, Kalidjef,
Bombenga.
Alors monsieur l'ambassadeur Mugaro, on va prendre quelqu'un au téléphone pour vous qui apparemment vous connaît très bien. Allô, bonjour.
Bonjour.
Moi c'est Kelly de Radio Kapi et vous êtes qui?
Moi c'est John.
John qui?
John Talemoa.
Alors, John Talemoa, nous sommes dans ce studio avec l'ambassadeur Mugaruka que vous connaissez. Dites-nous comment vous l'avez connu?
Oh, je l'ai connu depuis l'enfance, hein. Depuis avant l'indépendance, là. Je l'ai connu depuis très très longtemps.
C'est un grand ami à vous?
Oui, sauf s'il dit le contraire.
Il dit pas le contraire, il sourit par contre. Et donc, vous vous êtes connu depuis Bukavu?
Oui, nous avons Bukavu, on a fait... on a fait l'Ubuntu, on est revenu avant l'indépendance et puis on est resté amis juste si je disais le contraire.
Alors votre ligne crache un peu, je vous entends pas bien. Vous dites que vous êtes resté amis depuis?
Depuis.
Vous le connaissez sûrement mieux que nous. Dites-nous, il est quel genre de personne?
C'est un monsieur qui est constant.
Pardon?
Il est constant et discret. Je le trouve content et distrait et bon, attentionné aussi.
C'est des qualités que vous appréciez chez lui?
Oui.
Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui?
Ce que je n'aime pas chez lui, c'est que bon, des fois sa discrétion fait soulever des questions auxquelles on n'a pas de réponse et il n'est que le seul à répondre.
Lesquelles par exemple?
Bon, c'était une question difficile que vous posez là. Hein? bon. Des fois, on discute sur la situation du pays, par exemple, n'est-ce pas, de là où nous allons. Bon, lui, avec son devoir de silence, là, hein, il est très diplomate et on fait des analyses et bon, il contribue un tout petit peu là, mais je pense que sa discrétion l'habite vraiment beaucoup.
Et vous aimeriez qu'il change un peu par rapport à cette discrétion?
Bon, j'aimerais bien, mais bon, tu vois, quand il fait le boulot devant, bon. S'il change, bon, il va se dénaturer, mais il met un peu d'eau là, dans sa discrétion. Et puis quand il a une position là et il la garde, il faut un combat comme Mohamed Ali et Foreman pour lui faire changer d'avis.
Alors, monsieur l'ambassadeur, restez avec nous, John. Allez, moi, monsieur l'ambassadeur, vous êtes trop discret.
Mes fonctions m'obligent à être discret.
Partout et en tout temps.
Partout et en tout temps. Et
est-ce que c'est seulement sur des questions politiques ou même dans la vie courante
Même dans la vie courante, c'est ma nature, je ne sais pas, c'est ma nature. Et je fais de la politique active. Et comme on dit, bon, en politique, il faut savoir être discret, savoir être honnête.
Et constant aussi,
et
comme John l'a dit.
Et constant.
Il faudra un combat Mohamed Ali, Foreman, pour vous faire changer d'avis.
Oui, il le faut.
Mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces qualités que John a dit sur vous?
John, je suis d'ailleurs surpris. Je voudrais le remercier d'abord pour cette intervention. C'est parmi vraiment mes grands amis d'enfance. Nos parents étaient de grands amis. On a évolué avec John depuis l'école primaire. On a fait toute la vie pratiquement ensemble. Et on s'est quitté quand j'allais à Mbujimayi. Et on s'est retrouvé encore dans la vie. Je l'ai retrouvé ici à Kinshasa, déjà dans la vie aussi. Et nos enfants se fréquentent, nos enfants sont devenus...
Vos familles se fréquentent.
Ah oui, oui.
Et donc il connaît tous vos petits secrets d'enfance, jeunesse.
C'est vraiment un ami sincère.
John, tu as une anecdote à nous raconter par rapport à votre jeunesse.
Bon, avant que je pense peut-être à l'anecdote, je pense qu'il n'a pas dit vrai quelque part. C'est sa nature d'être... C'est une seconde nature qu'il a acquise dans le boulot. Parce que, bon... Oui, je comprends que c'est devenu sa nature, mais c'est une seconde nature. Bon, une anecdote, c'est que, bon, quand je le regarde, je dis, monsieur, où sont allés tes cheveux, là? Parce que, tu t'imagines, à l'époque de James Brown, on avait beaucoup de cheveux, c'était la mode et tout ça et tout ça. Quand je regarde ses photos, et je vois sa tête aujourd'hui, je me dis, mais, où sont allés ces cheveux-là?
Hein? Ben, c'est l'âge, non? On grandit.
À force de se gratter la tête aussi.
Moi-même, j'ai grandi aussi, mais, j'ai encore quelque chose sur la tête.
Ben lui se gratte trop la tête, comme il vient de le dire. Et il perd ses cheveux comme ça, en se grattant tout le temps la tête.
Non, peut-être pour quand il pense aux questions de haute stratégie, là, ça, il doit faire ça, mais nous autres, nous avons encore des cheveux.
John Talem, on ne va pas vous retenir longtemps. On va vous demander quand même de dédier une chanson à votre ami, l'ambassadeur Mugaruka, que vous connaissez depuis très longtemps, avec qui vous avez grandi. Vous connaissez sûrement ses goûts musicaux. Vous lui dédiez quelle chanson?
D'emblée, je lui dédie « I Stand Accused » de Isaac Hayes. Désolé d'aller très loin là, mais nous nous sommes introduits à beaucoup de choses, à la musique et à beaucoup de choses, à la danse quand on était jeunes. Et c'est parmi les anciens souvenirs que je garde. Hein, il m'a introduit à une certaine musique, moi je l'ai introduit aussi à autre chose. Mais « I Stand Accused », c'est une des chansons que je garde dans ma tête, et quand j'entends ça, je pense à lui.
Et c'est qui l'auteur de la chanson?
Isaac Hayes.
Okay. Moi, je me retrouve.
C'est Isaac comme Isaac. Isaac Hayes. Isaac Hayes.
D'accord, Isaac ok. Hayes. Ok. Et donc, vous pensez que ça va lui faire plaisir?
Ça devra lui faire plaisir.
C'est des souvenirs qui vont revenir.
Depuis longtemps.
Monsieur l'ambassadeur, ça vous rappelle quoi, cette chanson?
Oui, ça me rappelle nos randonnées à Bukavu, avec John.
Juste randonnée?
Quand on s'est retrouvé surtout avec mon épouse, on était encore fiancés avec mon épouse, John était toujours à côté de nous.
À vous conseiller.
À nous conseiller, et souvent il nous amenait à écouter cette chanson.
Et donc je comprends que c'est des souvenirs, John Talé, moi c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonne année 2014.
Merci beaucoup, c'était un grand plaisir à moi aussi. Bonne année 2014 à vous aussi et à son excellence, l'ambassadeur Mugaruka.
Vous avez un dernier mot, un mot particulier à lui dire?
Bon, c'est un grand soutien à l'amitié, je pense qu'il bon, il ne changera pas demain, qu'il reste toujours un grand ami et un frère, et qu'il soit aussi autant pour les autres. Quoi.
Merci, je crois que le message est passé. Monsieur l'ambassadeur, un mot?
Non, je voudrais dire merci à John, et qu'il sache que je resterai toujours cet ami-là.
Pour la vie.
Pour la vie, oui.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. On va vous libérer, John. Entre-temps, on va demander à la technique de nous balancer la chanson dédiée à son excellence, monsieur l'ambassadeur, par son ami d'enfance, John Talemwa. Guy Mangangu, merci de nous mettre la chanson I Stand Accused de Isaac Hayes. I Stand Accused qui signifie je suis accusé, sous-entendu d'aimer. Voilà. Merci de nous balancer la chanson.
Stand accused of loving you too much, and I hope it's not a crime, 'cause if it is, I'm guilty. Loving you, you, you
I do. Everyone's gonna, they're gonna cry. Just can't, I can't help myself. I'm a victim of circumstance. I'm just one. Ooh, one touch of your hand. I don't know how it happened, but just look at me. I find myself trembling on the witness stand. And I'm shouting out all over the land. Everybody's guilty. I'm guilty of loving you. I'm guilty of loving you, yeah. But what can I do? I want to hold you. I want to squeeze you tight. But what myself, she belongs to another and that ain't right.
Merci pour cette belle chanson dédiée à l'ambassadeur Mugaruka. J'espère qu'elle vous a aussi fait plaisir, vous qui nous suivez en ce moment, partout en RDC et même à l'étranger. En tout cas, moi, j'ai vraiment été emportée.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin a le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'ambassadeur Gaspard Mugaruka Bin Mubibi. Il est ambassadeur de la RDC en République centrafricaine. Monsieur l'ambassadeur, on va parler de votre parcours diplomatique. Vous commencez la diplomatie en 1998.
Exactement.
Racontez-nous.
Comme je l'ai dit, je commençais à servir d'abord comme chef de département des études et planification au secrétaire général de l'AFDEL. Et c'est le secrétaire général qui va m'affecter au ministère des Affaires étrangères où je serai nommé premier conseiller d'ambassade. Et on va m'affecter à notre ambassade à Nairobi. Et à l'époque, par hasard, M. Kyungwa Kumwanza était ambassadeur au Kenya. Malheureusement, je ne ferai que 2 mois avec l'ambassadeur Kyungu. Et à son départ, Kinshasa va décider à ce que je puisse assumer l'intérim à la tête de la mission. Mm-hmm. Là, nous sommes vers fin 98. Et en 99, je suis nommé d'abord représentant permanent au PNID, auprès du PNID et Habitat. Et ensuite, je suis confirmé chargé d'affaires en pied, toujours au Kenya.
Ça veut dire quoi, chargé d'affaires en pied?
C'est-à-dire un chargé d'affaires qui jouit de toutes les prérogatives reconnues à un ambassadeur.
Et là, c'était avant de vous confirmer?
Je vais rester chargé d'affaires en pied jusqu'en 2002 avec les histoires du dialogue intercongolais à Sun City.
À Sun City.
Le chef de l'État va demander à ce que je puisse aller à Sun City comme membre de la délégation du gouvernement. Et après Sun City, je suis nommé ambassadeur à Bangui.
Donc depuis 2002, ambassadeur à Bangui.
Je suis arrivé à Bangui en octobre 2002. Ça fait que j'ai connu d'abord les pouvoirs Patassé.
Patassé, oui. Bozizé.
Bozizé, parce que j'ai été le premier ambassadeur, parce que je n'ai pas présenté mes lettres de créance à Patassé. J'étais le premier ambassadeur à présenter les lettres de créance à Bozizé. Et là, nous sommes en mars 2003.
Et ça fait 12 ans que ça vous occupez ce poste d'ambassadeur à Bangui.
Oui.
Vous avez dit, vous avez connu les régimes de Patassé, Bozizé et puis...
Trois présidents,
Jotodia qui a démissionné. Oui. Peut-être que vous connaîtrez aussi le quatrième président. De ce pays. Vous avez adopté la culture, les coutumes, qui ne sont pas très différentes celles de la RDC.
C'est le même peuple. Nous avons plus de 1600 km de frontière avec la Centrafrique et des parts et d'autres de la rivière Oubangui dans la rivière Mbomou, nous avons les mêmes populations. Et donc, vous comprenez qu'on n'est pas trop étrangers en Centrafrique.
Et ça vous plaît, ça vous faites ?
Bon, ça me plaît, parce que j'ai été envoyé pour m'occuper des intérêts d'abord de mon pays et de m'occuper essentiellement de mes compatriotes.
La RDC a beaucoup d'intérêts en Centrafrique ?
Oui, vous comprenez, nous avons la plus longue frontière avec ces pays et nous avons une grande colonie en Centrafrique. C'est déjà quelque chose en fait solide.
Nous avons une grande colonie, ça veut dire qu'il y a beaucoup,
il y a beaucoup de Congolais
en Centrafrique. Qui ont changé même de nationalité pour certains.
Oui, comme cela se fait pratiquement dans tout le pays. Il y a beaucoup de Congolais qui sont devenus centrafricains.
12 ans comme ambassadeur en Centrafrique, est-ce que tous les Congolais qui vivent dans ce pays-là sont répertoriés à l'ambassade?
Oui, nous avons commencé à faire un recensement de compatriotes vivant en Centrafrique. Et
vous avez commencé, donc ça fait pas longtemps que vous avez commencé alors?
Non, depuis que je suis là. Nous avons même un comité, disons une organisation de la colonie, qui fonctionne très bien et qui nous aide à pouvoir recenser surtout nos compatriotes qui sont en province.
Mais vous avez aussi le temps d'aller en province pour être en contact avec ces Congolais.
Oui, j'ai eu à visiter quelques préfectures. Comme vous le savez, je suis le plus ancien des ambassadeurs en Centrafrique. Je suis vice-doyen d'abord du corps diplomatique et doyen des ambassadeurs africains. Et donc, chaque fois qu'il y a un problème, les autorités centrafricaines m'appellent pour des échanges. Et ça fait que dans les déplacements des autorités, surtout du chef de l'État, souvent à l'intérieur, j'ai toujours été associé.
Mais vous savez qu'il y a certains compatriotes qui vivent là-bas qui ne vous connaissent pas.
Ça m'étonnerait.
Si, qui vous connaissent pas parce qu'il y a pas ce, ils disent qu'il y a pas ce contact facile entre vous et les Congolais, certains Congolais. Ça c'est certains Congolais qui nous ont laissé entendre cela.
Ça m'étonnerait parce que l'ambassade, nous avons une ambassade, l'ambassade la plus ouverte quand même en Centrafrique, et nous avons amorcé cette politique d'aller vers nos compatriotes. Et depuis que je suis là, parce que dans le temps avant que je n'arrive, vous savez, l'ambassade a passé pratiquement une dizaine d'années sans qu'il y ait un ambassadeur là-bas et avec toutes les mauvaises habitudes qui s'étaient accumulées au niveau de la colonie. Il fallait réorganiser d'abord la communauté et ce que j'ai eu à faire parce que j'ai eu même à initier des projets en faveur de nos compatriotes, notamment des petits fonds qui étaient mis à la disposition de la communauté pour s'autogérer et s'autofinancer et des visites au niveau de certains villages habités par des Congolais, des visites aussi dans certaines préfectures. Et nous avons des réunions régulières avec le bureau de la colonie. Nous avons même instauré le système de quotas accordés à la colonie dans les coûts des cartes consulaires, parce que nous avons réduit sensiblement les coûts de la carte consulaire, qui ne coûte que 3000 francs.
Francs congolais ?
Francs CFA.
CFA.
Et dans les 3000 francs, il y a au moins 1000 francs qui est cédé au bureau de la colonie. Et nous avons aussi un système de contact, notamment à travers des interventions ponctuelles en faveur des membres de la colonie. Comme vous le savez, les gros de nos compatriotes sont des gens qui exercent de petits métiers et donc qui n'ont pas assez de moyens. Et dans les habitudes...
Et vous les assistez?
Dans les habitudes, oui. Bon, ils viennent toujours vers l'ambassade pour des problèmes de soins de santé, des problèmes d'assistance diverses.
Vous arrivez à les assister?
On le fait, selon nos possibilités.
J'espère que l'ambassade de la RDC à Bangui n'a pas des dettes ou d'arriérés de logement, le loyer.
Nous avons trouvé beaucoup de dettes à notre arrivée à Bangui. Mais je me suis battu pour éviter de continuer à accumuler. Les dettes. Ça fait que depuis que je suis là, nous n'avons pas d'arriéré de loyer. Parce que maintenant, l'ambassade, quand vous arrivez à l'ambassade, nous avons la mission, en tout cas parmi les missions diplomatiques les plus présentables. Nous avons, sauf mauvais jugement de ma part, nous avons la plus belle résidence d'ambassadeur en Centrafrique. Et tout cela, c'est parce que nous avons tenu quand même à redorer le blason de notre diplomatie et à montrer cette image de grandeur de la République démocratique du Congo.
Pour devenir ambassadeur ou diplomate, on n'a pas besoin de faire les relations internationales ou suivre des formations en diplomatie?
Non, un ambassadeur, c'est pas un métier qu'on apprend. Un ambassadeur était un envoyé du chef de l'État. Dans le temps même, dans l'Antiquité romaine, tout ça, il y avait ce qu'on appelait les missi dominici, hein, les envoyés du maître. Un ambassadeur est un envoyé. Il représente le chef de l'État.
Mais il faut avoir quand même des petites notions de diplomatie.
Bien sûr. Vous savez que dans l'État même, on pouvait envoyer même son domestique ou son agent. Mais avec la modernité, on choisit quand même parmi les collaborateurs formés et loyaux celui qui va représenter les intérêts du pays à l'extérieur.
Alors rapidement, parce que nous tendons vers la fin de notre entretien, monsieur l'ambassadeur, pour nos compatriotes qui sont en République centrafricaine actuellement avec la situation politique qui se passe dans ce pays, est-ce qu'ils sont en sécurité?
En sécurité, c'est difficile à dire. Parce que, vous savez, la guerre reste la guerre. Et quand le bal siffle, chacun essaie de se mettre à l'abri. Et c'est pour cela que nous avons eu ces mouvements vers notre chancellerie et que nous avons commencé à enregistrer de nombreux compatriotes qui ont tenu à rentrer chez nous. Beaucoup, bien sûr, ont pu, parce que vous savez, la frontière, c'est juste la rivière Oubangui. Beaucoup ont utilisé des moyens des bords, ont pris des pirogues pour traverser sans attendre cette autorisation spéciale que nous avons reçue au début, à la fin de l'année, de la part du gouvernement, pour organiser des sorties qui ont amené d'abord le premier convoi de 256 et le deuxième convoi de plus de 300 compatriotes dans la ville de Zongo. Et nous avons eu aussi à solliciter la compréhension du gouvernement pour que nos avions qui amènent nos troupes à Bangui puissent rentrer avec des compatriotes qui souhaiteraient, disons, regagner leur famille au niveau de Kinshasa. Alors, nous avons une autre situation, c'est la situation des Congolais réfugiés en Centrafrique, parce qu'il y en a aussi. Mmh. Et cela était pris en charge par le Haut Commissariat aux réfugiés, des Nations Unies aux réfugiés. Et avec cette situation de tension, cette situation de guerre, les HCR, au fait, a abandonné, ne pouvait plus s'occuper, comme il se devait, de gens qui étaient essentiellement dans le, qui étaient au niveau du camp des Batalimo. Parce que le premier camp à Mungumba, en face des Libengue, avait été fermé à notre demande, à la demande du gouvernement congolais et du gouvernement centrafricain, parce que il y avait beaucoup de problèmes. Vous savez, après les événements des Ingyele, beaucoup de Congolais ont traversé pour se retrouver en Centrafrique, au camp de Mungunga. Et il y avait un contact entre le réfugié qui était à Mungumba et ceux qui étaient en République du Congo. Et il y a eu une sorte de politisation de réfugiés dans ces camps, de gens qui demandaient à leurs compatriotes de ne pas accepter les retours au pays et d'attendre la réinsertion à l'extérieur. Donc beaucoup de gens sont venus, au fait, avec cette idée d'aller à l'extérieur. D'autres sont venus parce que ils ont appris qu'on distribuait les HCR, donnait quand même quelque chose.
Quelque chose.
Et il y a eu même des communications, des gens qui quittaient le Congo-Brazzaville pour se retrouver en Centrafrique afin de prendre des histoires là-bas. Il y a eu même un commerce, une sorte de commerce que les gens ont commencé à entretenir entre le camp d'Ifondo et le camp de Mungumba. Si bien que les HCR étaient obligés de déplacer ces réfugiés jusqu'à Batalimo. Et les gros, au fait, des réfugiés qui étaient à Mungumba étaient rentrés déjà, rapatriés chez nous. Ceux qui ont refusé les rapatriements ont été envoyés à Batalimo. Et ce sont ceux-là qui se sont retrouvés dans cette situation de crise aujourd'hui avec cette guerre qui sévit
en Centrafrique. En Centrafrique. Oui. Voilà, 12 ans comme ambassadeur de la RDC en Centrafrique. Vous n'avez pas envie de faire autre chose?
Ça dépend de la volonté du
vous-même,
chef de l'État.
Vous-même, professeur Mugaruka.
Je ne suis pas encore fatigué. Je servirai mon pays là où le chef de l'État voudra bien m'envoyer.
Donc vous pouvez tenir encore 5-10 ans en Centrafrique, ça ne vous dérange pas?
J'ai encore la force de travailler pour mon pays.
Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. Vous avez un dernier mot adressé à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net.
Le seul message, c'est un message de paix, un message d'encouragement pour tous nos compatriotes de Centrafrique qui doivent continuer à garder l'espoir et qui doivent se dire que le gouvernement ne les a pas oubliés. Le gouvernement est en train de s'organiser pour voir comment, dans les semaines qui vont suivre ici, comment on peut arriver à évacuer le petit nombre qui est resté à notre chancellerie.
Merci beaucoup.
Merci.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que j'ai recevé le professeur Gaspard Mugaruka Bin Mubibi. Il est ambassadeur de la RDC en République Centrafricaine. Merci à Guy Malzangou qui a assuré la mise en onde de micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bon pseudo-programme sur la fréquence de la paix.